lire une parole de Dieu avant la prière commune dans l'épître aux Éphésiens, le premier chapitre à partir du verset 3. Nous voulons nous lever pour la lecture de cette parole. En allemand, c'est écrit « Loué soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, en Christ. Car en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption, par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus, nous sommes rentrés en possession des du salut promis en allemand. En lui, nous sommes entrés en possession du salut promis, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis après avoir cru, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions de ce que tu nous as appelé par ta grâce. Tu nous as accordé ta parole dans ces jours, pas par mérite, nous tenons ici, mais par grâce. Tu nous as aimés, tu nous as élus, tu nous as accordé ta parole, tu as parlé avec nous jusqu'à cette heure, tu nous as déjà si souvent bénis, et nous voulons pour cela te louer et élever ton saint nom, car tu es notre Dieu, et nous sommes ton peuple, nous mettons notre confiance en toi encore ce matin et dans le futur. Que tu puisses être avec nous, Seigneur, que tu puisses bénir tout ton peuple, tous ceux qui sont venus, Seigneur, bénis-les à cause de ton nom. Seigneur, nous ne sommes pas venus pour seulement être ici, mais pour recevoir quelque chose de toi, de repartir avec quelque chose de ta part. Pour l'homme spirituel, ô Seigneur Dieu, nous te demandons que tu puisses parler puissamment avec nous encore ce soir. Nous te le demandons. Ôte tout ce qui dérange, tout ce qui pourrait déranger, tout ce qui te serait un obstacle, et que ton bon Saint-Esprit puisse agir parmi nous. Seigneur, nous te demandons de tout notre cœur et avec des cœurs courbés. Regarde-nous, Seigneur, parce que tu es notre espérance et notre consolation. Tu es notre paix. Tu es devenu tout pour nous dans toutes les difficultés. Tu nous as consolés. Nous t'adorons et te remercions de la profondeur de notre cœur, de ce que Nous louons, nous pouvons louer ton Saint-Nom et t'exalter et t'apporter l'honneur et l'adoration. Bénis aussi ceux qui ne pouvaient pas venir, Seigneur. Sois avec tous, à l'est, à l'ouest, au sud et au nord, partout, dans tous les continents, Seigneur. Bénis tout ton peuple. Bénis aussi ton peuple Israël, Seigneur. Bénis tous. C'est notre prière ce soir. Et tu accorderas au-dessus de tout ce que nous pourrons te demander et penser. Reçois la louange de nos cœurs à tous et bouge dans le saint nom de Jésus. Amen. Nous sommes reconnaissants à Dieu de ce que nous pouvons être ici et souhaitons qu'il puisse nous bénir et qu'il nous parle. Et pas seulement ça, mais qu'il puisse recevoir ce qui lui revient de plein droit avec, par nous et en nous tous. Nous avons entendu beaucoup de paroles de Dieu, sûrement plus que dans un autre âge quelconque, notre temps quelconque. Et c'est pour cette raison que Dieu exigera plus de nous. Si nous regardons en arrière, il y a eu de grands hommes dans l'histoire de l'Église qui ont existé. Et de ce que Dieu nous a révélé, ils n'ont pas su dans leur époque. Ils servaient Dieu dans leur temps. Et ils nous ont précédés. Et ensemble, nous verrons le Seigneur. Mais nous vivons dans un temps particulier. Dans un temps dans lequel Dieu fait l'histoire du salut. Et alors que la parole fut lue, ici nous avons lu pour le concernant le développement qu'il avait ordonné ici dans Éphésiens 1, verset 10. Pour le mettre à exécution en allemand dès que les temps eurent atteint la pleine mesure du développement qu'il avait ordonné. Là, cette pensée m'est venue tout de suite le souhait. Seigneur, que tu puisses pas seulement ordonner le temps et ce qui doit arriver, mais ordonne-moi aussi dans ce plan, dans cet événement du plan du salut de Dieu, ce déroulement. Ordonne-moi à l'intérieur, inclus-moi là-dedans, accorde-moi de conserver l'équilibre et le pas avec toi pour aller de l'avant, avec toi. Tout est ordonné et mis en ordre par Dieu. Tout se déroule comme Dieu l'ordonne. Et comme nous l'avons entendu de frère Branham, même la création est restée dans l'ordre de Dieu. Mais seulement l'homme n'est plus resté dans l'ordre. L'homme créé à l'image de Dieu, il n'est plus resté dans l'ordre divin. Le ciel, la lune, le soleil, tout l'univers, la nature, dans son entièreté, tout est dans l'ordre divin, est resté dans l'ordre divin. L'homme que Dieu a créé pour être en communion avec lui et déterminé en communion avec, à être en communion avec lui. L'homme avec qui Dieu avait communion est sorti de cet ordre divin. Et maintenant, nous devons être ramenés et inclus dans l'ordre divin. Et cela doit devenir une réalité divine, tel que d'être sorti de l'ordre divin était une réalité, c'est-à-dire que de revenir dans l'ordre divin et d'être inclus dans l'ordre divin doit aussi être une réalité. Dieu ne peut rien faire avec des gens qui sont seulement pleins de théories et qui peuvent tout expliquer aux autres avec toute la cohérence, mais qui eux-mêmes deviennent le sacrifice de leurs réflexions et de leur opinion de ce que Dieu doit faire. Dans ces jours, il s'agit d'être inclus dans l'ordre divin et à cela que le Seigneur puisse utiliser ces réunions d'une manière très particulière et claire, qui puisse les bénir aussi et en chacun, par sa parole, produire l'effet pour lequel il l'a envoyé. Vous savez que dans beaucoup d'endroits, beaucoup de choses sont faites en enthousiasme, en enthousiasme, sans que les cœurs soient transformés, régénérés et apportés en accord avec Dieu et la parole de Dieu. Et je pense à la parole que le frère Müller, le samedi à Salzbourg, en Autriche, a lu concernant Saül. Là, il est écrit, l'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. 1 Samuel 10, verset 6. L'Esprit de Dieu est déterminé à faire de nous d'autres hommes. Donc, est déterminé à nous changer en tant que des hommes faits à la volonté de Dieu, selon la volonté de Dieu. Mais ici, il y a quelque chose qui s'ajoute. Saül n'avait pas de promesse divine. Il n'avait pas reçu de promesse. L'Esprit de Dieu n'avait aucun point de liaison, n'avait pas une semence qu'il l'aurait pu vivifier dans le cœur de cet homme pour la faire apparaître à l'extérieur. Et le résultat a été que il a été saisi et prophétisait, l'Esprit vint sur lui. Il prophétisait et cela s'est fait entendre partout que Saül est aussi parmi les prophètes. Saül est aussi parmi les prophètes. Mais quand nous, plus tard, nous observons sa vie, il n'y a pas eu de changement. Peut-être qu'il était devenu un autre homme quand l'Esprit de Dieu vint sur lui et qu'il restait le vieil, la même personne, quand l'Esprit n'était plus sur lui, et cela se manifestait par la désobéissance. Et ensuite, un problème, et il a même demandé où est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui saurait jouer un instrument pour m'accorder du repos, car il était tourmenté par un esprit que Dieu avait permis qu'il vienne sur lui. La chose la plus importante de cette observation consiste à ce que où il n'y a pas de parole de la promesse divine reçue dans ton cœur, dans mon cœur, crue, reçue, là, l'Esprit de Dieu peut venir sur toi comme il le veut, si souvent qu'il le veut. Mais il n'y a pas de semence dans ton cœur que l'Esprit pourra créer et amener à la vie, vivifier. La différence entre Saül et David était la suivante. David avait une promesse. De la maison d'Ésaïe, tu me oindras celui que je te montrerai. et qu'il soit roi en Israël. Ça, c'était la différence. David avait une parole de la promesse divine. David était le choix de Dieu. Saül était le choix des hommes. Mais le Seigneur parla à Ismaël, fais ce qu'ils te disent. Et plus tard, il a dit, dans ma colère, je leur ai donné un roi. Et dans ma colère, je leur ai repris le roi. Nous ne sommes pas là pour dire à Dieu ce qu'il doit faire. Et même si nous sommes arrivés à ce point et que nous avons filé le programme, notre programme, et que nous disons maintenant et que tu puisses le bénir. On fait un programme et on veut que Dieu le bénisse. Alors ça peut arriver qu'il le bénisse, mais pas pour toujours. Ce sera quelque chose de passager. Ce n'est pas à renier que Dieu, dans cette génération, a béni des hommes et les a utilisés. Et de la même manière, ce n'est pas à renier non plus que ces hommes, eux-mêmes, n'ont pas reconnu les voies de Dieu et ne marchent pas sur les voies de Dieu. Et malgré tout, de manière variée, ils reçoivent des bénédictions et ont expérimenté des bénédictions. Donc, pas seulement les bénédictions, mais la semence de Dieu en tant que la parole doit dans notre cœur être semée. Et vous savez, dans la dernière lettre circulaire, je l'ai écrit en insistant et c'est parfois pas facile, mais vous comprenez cela sûrement bien, que personne peut parler de lui-même, de sa propre chose. Mais je dois dire que j'ai du zèle pour l'Église du Seigneur, pour l'épouse de l'agneau, pour qu'elle soit sans tache, sans ride, en tant que parole épouse, épouse parole qui par l'Esprit de Dieu a été vivifiée et sera transformée à l'image de Jésus-Christ. Se tiendra devant le Seigneur, apparaîtra devant le Seigneur. Et si parfois il y a des corrections qui doivent être prises, alors Dieu, n'est-ce pas, veut notre bien. Et autrefois, Frère Branham le disait toujours dans les prédications plusieurs fois en parlant de la vision de l'épouse. Et il disait, c'était pour lui comme si de chaque nation, il y en avait une qui apparaissait, de chaque nation, une épouse. Et donc, deux, trois, n'est-ce pas, ont quitté le pas et il a dû élever sa voix pour les ramener au pas. Et si ce soir, il est dit que nous n'avons pas encore atteint ce but, alors c'est vrai. Je ne veux pas appartenir à ceux qui se jouent la comédie ou bien jouent la comédie aux autres. Il y a assez de gens qui le font partout, qui ont ce besoin-là de chercher la faveur des hommes, de leur dire les choses qu'ils veulent entendre, mais cela n'a pas le droit d'être fait avec la parole de Dieu. Mais là où Dieu parle, il faut que les paroles soient apportées qui sont sorties de sa bouche. Et dans ton cœur, dans mon cœur, ces paroles-là doivent tomber, prendre toute la place et ainsi pour pouvoir être vivifié par son esprit. Sinon, je suis convaincu que, d'un côté, je suis convaincu que nous nous tenons très proches de cette union en esprit et dans la vérité. Pas dans tes opinions et dans mes opinions, pas dans une connaissance, mais en Jésus-Christ, notre Seigneur. Cette union divine, nous la trouverons, nous l'atteindrons, nous devons l'atteindre dans cet ordre divin. Être inclus dans cet ordre divin, étant inclus dans cet ordre divin, dans l'ordre divin, c'est seulement alors que Dieu pourra faire le reste. Tant que, en tant qu'Église du Seigneur, nous n'arrivons pas à marcher au même pas et atteignons pas l'accord parfait avec chaque parole de Dieu révélée, il y aura encore du désordre partout. Et aussi, tant que nous ne discernons pas toutes les différentes voix qui s'adressent à nous et qui s'adressent à nous, si nous ne faisons pas la différence et tirons pas la conséquence et disons pas, moi, j'écoute, je prête l'oreille seulement à ce que le Seigneur a dit par sa parole, par les Écritures, que cette déchirure intérieure, cette division, cette désunion puisse avoir une fin. Un homme doit une fois prendre une décision dans sa vie. Et vous savez, cela aussi, frère Branham, dans cette prédication, l'a dit, alors que par révélation, il lui a été dit, tu as fait le bon choix. C'est-à-dire, selon ta propre volonté. Cela est étrange, n'est-ce pas, de l'entendre formuler comme ça. Mais vous savez que Dieu, n'est-ce pas, nous a donné, c'est vrai, un libre arbitre. Mais il savait que tout ce qu'il a connu avant la fondation du monde est déterminé à voir sa gloire. Il savait que avec leur libre arbitre, ils se décideront d'après la volonté de Dieu, en accord avec la volonté de Dieu. Et alors, de nouveau, tout est en accord, est en harmonie, c'est-à-dire de manière très harmonieuse, est en accord. Et là, on n'a même pas besoin d'aider. Au contraire, que Dieu soit celui qui nous aide d'une manière afin que nous soyons vraiment aidés tous. Dès que les temps eurent atteint la pleine mesure du développement qu'il avait ordonné, lorsque les temps seraient accomplis de réunir toutes choses, atteint la pleine mesure du développement qu'il avait ordonné. Parfois, nous considérons certains développements comme n'étant pas ordonnés, comme n'étant pas corrects. Et Dieu lui regarde du ciel et il dit, tout se déroule selon mon plan. Si nous nous faisions un plan, alors ce serait une chose, ce serait un bon plan, c'est sûr, mais il ne fonctionnerait pas, il ne fonctionnera pas. Mais Dieu, lui, il a un plan qui fonctionne. Et si parfois cela semble que tout va de travers, ou bien alors tout est dans le désordre, alors cela a même un sens et un objectif pour ta vie, si c'est le plan de Dieu, si c'est selon le plan de Dieu, pour que dans ce plan de Dieu divin, nous soyons tous réunis et que toutes les plumes qui se détachent soient ôtées et que nous soyons prêts pour ce vol dans les hautes sphères. Notre Dieu a un plan déjà fixé, ferme, et il ne va pas planifier des heures spéciales pour en discuter, et personne n'aura besoin non plus de dire quelque chose là-dessus. Et depuis que nous savons cela, nous avons pour nos pieds de la foi un sol et un fondement solide. Si le cantique dit, j'ai trouvé le fondement, alors nous pouvons sûrement dire, que il m'a placé sur le roc. Et nous savons que ce roc est la révélation de Jésus-Christ. Et si nous recevons dans notre cœur tout ce que Dieu a révélé et croyons tout ce que Dieu a révélé, Dieu, lui, produira le reste. Pensez-vous que Dieu ne s'intéresse pas à achever son œuvre? Ça, c'est certain. Mais nous devons nous tenir à sa disposition. Tout ce qui pourrait nous empêcher, le mettre de côté. Et dans cette course, avoir fixé nos yeux sur le but, allant à la rencontre du Seigneur, jusqu'à que nous le rencontrerons. Il est dit encore ici, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, la tête. Pas seulement de placer ensemble de toutes sortes de sortes. Non, chaque semence produit selon son espèce, pas des sortes différentes placées ensemble. Et dans chaque semence, il y avait de nouveau des semences pour que la reproduction puisse être possible. Mais ici, lorsque les temps seraient accomplis de réunir toutes choses, afin que toutes choses soient réunies en Christ, la tête, en allemand, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre, réunies, ensemble, pas dans le désordre, pas quelque chose qui vient des hommes et d'autres choses qui viennent de Dieu et qui viennent de moi, qui viennent de toi, non. Mais tout soit réuni de la part de Dieu, en accord l'un avec l'autre, s'ajustant l'un avec l'autre, oui, appartenant l'un à l'autre, réunis tous dans le programme de Dieu. C'est ce que Dieu veut dans ces jours. Tous réunis en Christ. Et c'est pour cette raison qu'il nous a révélé sa parole. Et par sa grâce, il nous l'a accordée. Et si tous passent à côté de cela, donc ce sont seulement ceux qui ont leur propre programme. Des hommes, que ce soit qu'ils prêchent la parole ou bien alors qu'ils l'écoutent. Des hommes qui sont réunis tous ensemble dans ce développement ordonné par lui, vont se laisser soumettre et réunis. Que cela coûte ce que cela coûte, et le Seigneur recevra ce qui lui revient de plein droit. Car c'est pour cette raison qu'il s'est porté garant à ce que nous soyons réunis tous en Christ. Mais nous devons comprendre que les jours de mélange et de compromis et de ce que nous pouvons faire de nous-mêmes, produire de nous-mêmes, ont pris leur fin. Pour que Dieu, pas ta force, pas ma force, mais pas ta puissance, mais pas ton vouloir, mais pas ce que je veux, ce que tu veux, mais par sa puissance, qu'il puisse en nous tous produire ce qui lui est agréable, ce qui pourra subvivre, se tenir devant lui. Je sais que la plupart de nous, sûrement, les choses vont pour vous comme pour moi. Nous voulons que l'opprobre soit ôté de nous. Je ne parle pas de l'opprobre du Christ. Ça, nous voulons volontiers la porter. Je parle de cette opprobre en relation avec l'accomplissement de la parole, du nom du Seigneur, de tout ce que Dieu a promis. Et qui ne sait pas, opprobre parce que ce n'est pas encore accompli, que cette opprobre soit ôtée en ce que Dieu puisse confirmer chaque parole et l'accomplir. Que Dieu soit honoré et que tout obstacle soit ôté qui constitue un opprobre en opprobre parce que Dieu ne peut pas accomplir sa parole. Que tout cela soit ôté du milieu de nous. Vous savez alors que le Seigneur avait donné à Abraham la promesse et que Abraham ne savait pas comment est-ce que cela doit s'accomplir, devait s'accomplir. Là, le Seigneur Dieu lui a dit, est-ce que il y a quelque chose d'étonnant de la part de Dieu? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est impossible de la part de l'Éternel? Est-ce qu'il y a le mot impossible? Est-ce que ça existe pour Dieu? Depuis longtemps, nous avons entendu, nous avons prêché concernant la foi et parlé de la foi. Maintenant, cette foi doit être manifestée, et c'est-à-dire en action et en vérité, sans un entretien pieux là-dessus. Chacun peut parler de l'amour, peut parler de la foi, peut parler de tout ce qu'on pourrait trouver à parler comme sujet. Mais cela ne veut pas encore dire que les choses dont nous parlons sont existantes dans notre vie et que par notre vie, elles peuvent être manifestées. Dans cette génération, nous n'avons pas seulement eu un exemple ou bien un modèle, mais vraiment un exemple inouï et un modèle inouï, donc unique de ce que Dieu est capable de faire. Et au commencement de chaque réunion, ce beau cœur était chanté, crois seulement, la plupart des réunions étaient tenues avec Hébreux 13, verset 8, avec Jean 14, verset 12, Luc 17, verset 30, Malachie, et où les autres versets bibliques se trouvent, sont écrits, ils ont été utilisés et placés comme fondement de la prédication et de l'annonce de la parole, et Dieu a confirmé que cela est la pure vérité. Est-ce qu'il y a eu un âge et que tous les lecteurs qui sont parmi nous qui puissent le dire, qui aussi ont étudié l'histoire de l'Église, mais au moins l'ont sondé? Est-ce que vous avez déjà lu dans l'histoire de l'Église que tous ces grands hommes de Dieu, dans les autres âges, une fois, auraient utilisé Hébreux 13, verset 8 comme texte de prédication? Hébreux 13, verset 8. Est-ce que vous avez déjà lu que tous ces versets bibliques-là, qui concrètement et consciemment appartiennent au développement des derniers jours, que ces versets-là de ces hommes de Dieu auraient été utilisés? Wesley, je pense de manière très bien à la prédication qu'il a tenue dans son époque de Genèse. Son roc n'est pas comme le nôtre. Et ce petit verset concernant le rocher a suffi pour toute une prédication. Mais les choses qui sont en relation avec ce que Dieu a déterminé pour ce temps, de tous ces grands hommes de Dieu des autres âges, ils n'ont pas été touchés. Et malgré tout, c'était des hommes de Dieu. Mais le développement dans le royaume de Dieu n'avait pas encore atteint son accomplissement, comme maintenant dans ces jours. Alors, nous sommes reconnaissants de ce que nous ne vivons pas dans les jours de la Réformation et pas non plus dans les années qu'on suivit, les jours qu'on suivit et les époques qu'on suivit de la Réformation. Nous sommes reconnaissants de ce que nous avons la grâce de vivre à la fin des jours. Et encore plus reconnaissants, nous le sommes de ce que Dieu nous a accordé la grâce dans cet ordre qui est à sa mesure, être inclus dans ce développement ordonné par lui. Pas seulement entendre parler de cela, mais d'être réunis, joints dans cet ordre. Tous les autres, jusqu'à dans notre temps. Vous savez, j'étais à Amsterdam lors de la conférence là maintenant en juillet. Il y avait plusieurs évangélistes qui étaient là. Il y en avait un connu dans le monde entier et qui disait, attendez quand ces quatre chevaliers de l'Apocalypse commenceront à chevaucher. Des hommes sont passés à côté de Dieu. Ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils n'ont pas écouté ce que l'Esprit dit à l'Église. Ils vivent spirituellement, ils ne vivent pas spirituellement dans les choses pour lesquelles le temps est accompli, dans les développements ordonnés par Dieu. Ils sont dans un mélange, dans des dénominations, et ils tiennent des entretiens pieux et toutes sortes de prédications. Mais que Dieu soit remercié de ce que dans ces jours, de la part de Dieu, Dieu nous a parlé de sa part lui-même. Il nous a parlé. Nous avons entendu directement de sa part que il l'a parlé avec nous du haut des cieux, du haut des cieux. Et je vous le dis, dans les paroles du Seigneur, tout est clair. Quand il n'y a pas de clarté, c'est auprès des hommes, c'est-à-dire dans leur tête et dans leur cœur. Mais avec Dieu, auprès de Dieu, tout est ordonné et tout est clair. Même si maintenant je vous disais deux écritures qui semblent dire quelque chose de différent, des choses différentes. C'est la belle parole de Jean, chapitre 15. Jean, chapitre 15, ici il est écrit au verset 15. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. Je tourne seulement une seule page. Seulement une seule page, pas deux, une seule page. Et je lis au prochain chapitre, Jean 16, verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais je pensais qu'il avait déjà tout dit. Avons-nous bien lu cela dans Jean 15? Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Et ici, dans Jean 16, le verset 12, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant ou bien les supporter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Ces deux versets sont vrais à 100%. Autrefois, il avait dit jusqu'à la dernière parole, ce qui concerne le royaume de Dieu et les développements de l'époque, car c'est ainsi que c'est écrit. Il a commencé avec Moïse et avec les prophètes. Il leur a dit toutes ces choses et il a ouvert l'intelligence pour les Écritures. Il leur a parlé du royaume de Dieu et des choses qui s'accomplissaient autrefois. Mais la Bible n'était pas seulement écrite pour ceux du commencement. Elle est aussi écrite pour toi et pour moi aussi aujourd'hui, pour nous. Et c'est peut-être raison qu'il y a encore des choses qui sont restées qui devaient être révélées quand le temps allait aussi arriver pour ça. Autrefois, il a fait connaître tout ce qui se passait dans le royaume de Dieu, ce qui appartenait au royaume de Dieu, et là, rien n'a manqué. Il leur a tout dit pour leur époque. Autrefois, ce qui s'accomplissait. Et la même chose, après que le message dans ces jours a été apporté, nous le dirons. Il le dirait. Je vous ai fait connaître tout parce que vous êtes mes amis. Et si alors le temps pour Israël vient, il pourra aussi dire, je vous ai fait connaître tout ce que notre Dieu peut plusieurs fois laisser savoir, laisser connaître tout ce que nous devons savoir. Au commencement, au milieu, à la fin, on a besoin d'une compréhension spirituelle pour savoir que l'Esprit de Dieu, par inspiration, n'est-ce pas, a annoncé à l'avance tout le dessein du salut. Mais selon le développement des développements dans le royaume de Dieu, l'Esprit de Dieu éclaircit, apporte la lumière sur la parole de Dieu, la parole du Seigneur. Et si nous lisons sur les écrits adressés aux âges des églises, comment est-ce que Dieu a conduit et a dirigé toutes ces choses pour que justement l'Évangile pénètre jusqu'aux extrémités de la terre? Quand le temps fut arrivé, Dieu a envoyé ses messagers et ses serviteurs l'un après l'autre. Et c'est ainsi que je voudrais demander aujourd'hui. Est-ce qu'il y a eu auparavant quelqu'un qui a apporté la parole sur la justification comme au commencement de la réformation, alors que Dieu faisait le commencement de la réformation? C'était l'heure de Dieu. Et si nous considérons ce qui avait été prêché autrefois, et ça je le dis devant Dieu, à l'époque, personne n'avait pu parler plus profondément de la justification comme cet homme a parlé de la justification. Oh, il est allé profondément dans ce sujet. Et il y a un verset qui pouvait être tout un livre. Et c'est ainsi que subitement, un prophète du Seigneur vient dans la génération et dit, je vais vous montrer la différence entre le pardon et la justification. Sûrement que cela va venir dans la prédication de décembre, si je me rappelle bien cet exemple. Et voilà, il dit la chose suivante. Quand j'ai fait quelque chose, alors celui à qui j'ai fait cette chose peut me pardonner. Mais il dit, par cela, je ne suis pas encore justifié. Car j'ai fait cette chose, j'ai commis cet acte. Et alors, il vient à cette expression justification. Et il dit, la justification est quelque chose de tout à fait autre que le pardon. D'autres choses. La justification, celui qui a reçu la justification divine, il est devant Dieu comme s'il n'avait jamais commis l'acte. Celui qui invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Il reçoit le pardon. Il prend part à la deuxième résurrection. Il n'y a pas de problème. Mais pour prendre part à la première résurrection, il s'agit de l'appel à sortir et de la troupe des vainqueurs. La justification divine signifie que toi et moi, nous n'avons jamais été coupables. Car avant même que toi et moi, nous puissions être coupables, Dieu, avant même la fondation du monde, avait prédestiné l'agneau de Dieu avant la chute de l'homme, avant tes fautes et mes fautes commises. Il a déterminé à ce que cet agneau de Dieu, sur la croix à Golgotha, meure et apporte la réconciliation. Cela avant même la fondation du monde. Donc, la justification absolue et sanctification et la justification parfaite devant aux yeux de Dieu. Dans le passé, les hommes ont écouté ce qui leur était prêché dans leur âge. Mais à la fin des jours, Dieu a tout éclairci. Plus rien n'a été laissé. Mais on a besoin non plus de personne qui ajouterait le moindre de choses à cette parole de Dieu. Et Je crois que dimanche, avant la prédication de Zurich, je l'ai dit, avant la réunion de Zurich, je l'ai dit, notre persévérance et notre attente, notre patience, un jour aura servi à quelque chose et recevra une rémunération. Une rémunération. Bien sûr que nous aurions pu faire certaines choses, mais nous ne sommes pas là pour, dans le royaume de Dieu, faire quelque chose. Non. Nous sommes là pour que Dieu, selon sa parfaite volonté, en toi et en moi, en nous tous, produise quelque chose. Nous ne voulons juger personne ou bien porter un jugement. Mais il y a une chose qui serait bien, qui serait adéquate. Si tous restaient là où ils ont leur place d'être, je veux dire particulièrement ceux qui voyagent et qui prétendent pouvoir prêcher la parole de Dieu. Et ils savent bien sûr tout où est-ce que les choses sont trouvées dans les prédications, dans les brochures. Il y a une chose qu'ils savent, qu'ils ne trouvent jamais. Aucun d'eux a découvert ça, que d'abord, avant de voyager, on a besoin d'avoir un appel du Seigneur, et cela de face à face, avec une voix audible pour pouvoir entreprendre un voyage missionnaire. Et s'ils trouvaient ces citations, les choses iraient mieux dans le pays et dans les pays. Mais ce n'est pas aujourd'hui notre problème. Dieu a une troupe de vainqueurs qui passe à côté de tout ce qui est prêché et de ce qui est entendu, mais pas à côté de ce que Dieu dit et de ce que Dieu fait. Notre décision vient de Dieu. Et elle a été placée dans notre cœur par la grâce de Dieu, car personne ne peut venir à moi, dit notre Seigneur, si ce n'est que le Père la tire premièrement. Donc, d'où vient ta décision? D'où vient ta décision? C'est lui qui produit les deux. Le vouloir et le faire. Ce n'est pas nous qui avons cherché Dieu. C'est Dieu qui nous a cherchés. Et si nous avons entendu sa voix, entendu sa parole, nous voulons entrer dans le repos de Dieu, dans le saint repos de Dieu, et pas continuer comme ça à sauter à droite et à gauche, comme si dans la parole de Dieu, il n'y aurait pas d'assurance et de certitude. Pensez-vous que Abraham a attendu que le Seigneur, tous les jours, lui parle? Vous pouvez le lire. 15 ans sont passés d'une parole de Dieu à une autre, alors que le Seigneur avait parlé avec lui. Est-ce que vous pensez qu'il est allé à Lot ou bien à quelqu'un d'autre et lui a dit, je suis plein de problèmes, le Seigneur ne parle plus avec moi? Non, dans son cœur, la parole du Seigneur, de Dieu, était profonde, était réelle, était, personne ne pouvait lui ôter de cela. La certitude de la foi était en lui. Et la même chose doit aussi avoir lieu et être avec toi et avec moi. Si ce n'est que ce sont des paroles d'hommes que nous avons entendues. Si nous avons entendu des paroles d'hommes, alors nous ne pourrons pas entrer dans le repos. Mais si c'est la parole de Dieu dans la réalité que nous avons entendue, alors nous entrons dans le repos en Dieu. Il y a un repos dans la foi dans lequel nous avons la grâce d'entrer. Et nous avons cette conviction en raison de la parole de Dieu que nous vivons à la fin des jours. De la même manière aussi que Dieu le Seigneur a envoyé son serviteur le prophète. En privé, j'ose le dire que je crois que frère Branham était le plus grand des prophètes, de tous les prophètes. Mais nous sommes aujourd'hui aussi tout à fait en privé ici rassemblés, même si c'est de manière internationale que nous sommes rassemblés. Et je suis de tout mon cœur reconnaissant pour cela. Je crois en raison de ce que la Bible témoigne, que le ministère de Frère Branham est le plus grand, était le plus grand de tous les ministères. Et je vais vous dire pourquoi. Justement parce que aucun d'autre avait ce ministère. C'est peut-être simple, mais malgré tout, je veux faire un pas de plus. C'était la répétition exacte, du ministère de Jésus-Christ lui-même. Mais aussi ça, nous voulons, n'est-ce pas, le différer, éloigner de la terre et du ciel. Que Jésus-Christ était Dieu lui-même manifesté dans la chair. Et William Branham était qu'un homme qui était exactement né dans ce monde comme nous tous. Il était qu'un homme. Mais ici, il s'agit de ce que Dieu avait comme intention dans ce temps. Et vous savez, alors que l'ange de l'Éternel vint à Frère Branham et lui disait, pourquoi est-ce que cela devait arriver? C'est-à-dire, tel qu'autrefois, le Seigneur avait aux Juifs et aux Samaritains donné ce signe prophétique à leur fin et qu'ils devaient prendre leur décision. C'est ainsi que maintenant l'Église des nations reçoit le même et le dernier signe. Et le Seigneur a reçu. Et le Seigneur a dit, comme à Moïse, il a été donné deux signes. C'est ainsi que deux signes te seront donnés. L'un avec la main droite, que le Seigneur lui révélait la maladie, et que l'autre signe, c'était que les pensées secrètes des cœurs ont été révélées. Autrefois, les gens ont demandé, d'où est-ce que tu me connais? Et la réponse était, avant même que Philippe t'ait appelé, je t'ai vu sous le figuier. Et c'est justement ce verset biblique-là de l'évangile de Jean que l'ange de l'Éternel a mot à mot cité à Frère Branham. Et il s'est référé à ce verset. Que cela doit se répéter en tant que dernier signe pour l'Église. Et qu'est-ce que c'était? De la même manière, comme autrefois, alors que le Seigneur, n'est-ce pas, exécutait son ministère sur cette terre, les uns étaient enthousiasmés et disaient, « Tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et les autres, n'est-ce pas, ont porté leur jugement selon leur mesure. Chacun est aujourd'hui là où il a sa place d'être, où il appartient. Mais le même signe a été donné. Une décision a été prise. Et elle ne va pas être maintenant prise. Oh, que quelqu'un dise. Mais ça, ce sont des mouvements. Et là, il y a des frères qui voyage de pays en pays et nous avons un grand programme. Ne vous inquiétez pas. Le plus grand programme d'ampleur mondiale, à l'exception du programme de Dieu, jusqu'à maintenant, c'est le diable qui l'a encore. Et directement sous lui, n'est-ce pas, c'est le chef religieux qui a un beau siège ici sur cette terre. Et ensuite, suivent toutes les grandes dénominations. On ne peut pas regarder à ce qui est offert dans le marché religieux. On doit s'orienter divinement et savoir à quel point le temps est avancé et quelles sont les promesses qui ont été données par Dieu. Oh, comme c'est merveilleux, comme ces paroles résonne merveilleusement. Tel que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, c'est ainsi que tu seras envoyé avec un message qui sera précurseur, qui précédera le retour de Christ. Là, pas un huitième ou bien un neuvième messager peut venir. Là, il n'y a personne qui suit. Seulement après ce message, c'est le Seigneur qui revient et personne d'autre. Et ce dont nous avons besoin, c'est en fait d'écouter cette nourriture emmagasinée, la parole révélée, car l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qu'est sortie de la bouche de Dieu. Imaginez-vous, si Dieu très spécialement a donc vivifie des versets bibliques bien spéciaux et les place sur le chandelier, les relève et les gens passent à côté de ça. Ça veut dire qu'ils n'ont aucune relation à la parole de Dieu. Ici, c'est le point. Tous ceux qui appartiennent à la semence de Dieu ont une relation à la semence de la parole de Dieu, c'est-à-dire à la parole de Dieu. Et si la parole de Dieu retentit, est apportée, alors elle brûle dans mon cœur et dans ton cœur. Et je vous dis, ce feu divin doit commencer à brûler. Il faut que cela nous enthousiasme, nous réjouisse de ce que Dieu a fait de grandes choses glorieuses et que nous avons la grâce de prendre part à ça, d'être une partie de ça. Malheur à nous si nous venons aux réunions et que la parole ne nous touche plus, ne nous atteint plus et nous ne sommes plus reconnaissants. Nous n'avons plus de reconnaissance. Nous n'arrivons plus à pouvoir dire, Seigneur, qui sommes-nous de ce que nous ayons la grâce d'écouter tout cela et de voir tout cela. Dieu veut des cœurs reconnaissants, des gens qui, vraiment, de tout leur cœur, reçoivent ce qu'il a dit. Il nous a fait connaître toutes choses. Il n'y a plus personne qui pourrait venir et dire, cela, Dieu l'a oublié. Dieu a oublié cela. Dieu n'oublie qu'une seule chose. Et ça, vous savez ce que c'est. Il y a même la mer de l'oubli dans laquelle nos fautes ont été jetées. Et c'est écrit de manière si merveilleuse. Il ne s'en souvient plus. Dieu, en ce qui concerne cela, il a ou alors une mauvaise mémoire, ou bien il n'en a même pas. Oui, il a oublié. Il a oublié. En ce qui concerne nos fautes, tout ce que toi et moi, tout ce que nous avons fait, Dieu l'a oublié. Parce que sur la croix, à Golgotha, il ne s'en souvient. Un prix précieux a été payé. Il ne peut plus s'en souvenir. Et ça aussi, c'est la suite. C'est le résultat. C'est la joie de notre, c'est la raison de notre joie et de notre paix. De ce que le Seigneur ne peut pas seulement oublier, mais il a oublié. Mais de manière divine, il a justifié. C'est-à-dire que cela il en est même plus question. Il en est même plus question. Celui qui est déjà jugé, il ne sera plus jugé. Et le jugement divin, nous l'avons reçu. Et savons que nous étions coupables. Nous avons accepté. J'ose pas dire que nous sommes coupables, car cela serait l'incrédulité. Que vous acceptez cela de moi ce soir ou pas, cela serait l'incrédulité. La foi voit la justification divine de manière divine, aux yeux comme Dieu la voit. Pas tes petites erreurs et même mes erreurs, mais tes erreurs. Et à chaque occasion, on sort à cela. et aux horreurs des autres aussi. Non, Dieu n'est pas comme ça. Le sang de l'agneau a réparé tous les dégâts. Ou bien alors plutôt a tout expié. Et donc ici, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Et là-bas, je vous ai fait tout connaître. Les deux sont en accord parfaitement. Il nous a fait tout connaître. Jean 15, verset 15, rien ne restait encore. Il y avait dans leur époque aucune question sans répondre, sans réponse. Et encore, la même chose est valable pour notre temps. Quand le Saint-Esprit sera venu, alors il vous conduira dans toute la vérité. Jean 16, verset 13. Le Saint-Esprit ne produit pas seulement que nous soyons heureux et reconnaissants et joyeux. Le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Et ensuite, nous reconnaissons la vérité. Et la vérité nous affranchit. Et nous sommes affranchis. Qui dans les derniers siècles, dans les derniers siècles, a parlé avec clarté sur la divinité, etc., comme nous l'avons entendu dans nos jours. Qui a parlé de tous les mystères de Dieu, du péché originel, de l'élection, oui, de toutes ces choses? Qui a parlé de ces choses? Peut-être qu'ils ont lu concernant ces choses et ensuite, c'était en ordre. La même chose, nous l'avons aussi fait, nous qui sont croyants déjà depuis longtemps. Nous avons lu et nous sommes réjouis. Et si quelqu'un nous avait surpris dans notre voiture et avait demandé, tu comprends ce que tu lis, nous aurions dû répondre comme l'Éthiopien. Comment est-ce que je peux comprendre si personne me conduit dans ces choses, si personne ne me l'explique? Et déjà, un homme dont le Saint-Esprit avait envoyé là-bas, ouvre sa bouche. Lui, que le Saint-Esprit avait envoyé là-bas, est-ce que je dois encore le répéter? Pas qui voulait partir, mais qui est allé là-bas, envoyé par le Saint-Esprit, porté par le Saint-Esprit, apporté, placé, envoyé par le Saint-Esprit, établi par le Saint-Esprit. Et ensuite, c'est là que Dieu a pu commencer à parler par sa bouche. Et c'était des paroles de révélation, de lumière, de révélation, et de puissance et d'enseignement. Paul écrit dans Actes des Apôtres, bien Luc, qui a écrit les Actes des Apôtres, alors que il avait laissé appeler les anciens. Il écrit cette phrase merveilleuse. Veillez sur le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi. Il y a encore des ministères dans l'Église qui, sous l'onction du Saint-Esprit, sont établis par Dieu. Et ensuite, s'accomplit ce que Jean écrit. Tel que l'onction vous enseigne. C'est ainsi que cela est juste et qu'il n'y a pas de mensonge et d'erreur à l'intérieur de ces choses. Celui qui est établi par Dieu et qui est sous l'onction du Saint-Esprit, il n'enseigne pas. D'abord, il est enseigné lui-même par Dieu. Et il ne lit pas dans des livres ou bien par des moments d'éclairage que chacun peut avoir, d'illumination, mais par un enseignement fondamental de la parole prophétique par l'Esprit de Dieu sous la révélation de Jésus-Christ dans ce temps. Mais alors il est écrit, vous qui devriez être des enseignants depuis longtemps, vous avez encore besoin d'être enseigné et qu'on vous apporte les choses élémentaires de la parole de Dieu. Et que, comme c'est écrit dans Hébreux 5, que Dieu là nous aide. Et que ce ne soit pas que nous soyons restés, que nous ayons redoublé et que nous soyons restés au premier rang, au premier banc, à la première classe, mais nous puissions avoir appris là-dessus. Et pas seulement pour accumuler notre connaissance. Il n'y a rien qui est resté caché. Cela n'est pas resté caché qu'il y en a sur le message qui philosophent, qui font de la philosophie sur le message. Oh, cela va dans toutes les directions, hein, de toutes sortes de manières, n'est-ce pas, et toujours sous le couvercle de révélations particulières. Et nous n'avons pas besoin de tout ça. Nous n'avons pas besoin de toutes ces choses. Paul écrit aux Colossiens, ne vous laissez pas piéger par la philosophie. Et les gens pensent, oui, même des croyants, bon, un philosophe chez nous, il n'a jamais tenu un discours. Un philosophe n'est jamais venu dans nos réunions. Donc, eux, ils ne s'occupent pas de cette parole, ça ne les concerne pas. Mais ils ne comprennent pas que tous ces petits philosophes, ou bien qu'ils veulent l'être, avec leur philosophie, ont déjà produit plein de dégâts dans les églises. Hein? Et que les gens ne sont même pas conscients de ça. Qu'il y a beaucoup de philosophes dans le message. Parfois, on doit lire les proverbes, peut-être même aussi le Cantique des Cantiques, ou bien l'Ecclésiaste, pour savoir que les petits loups détruisent la vigne et qu'on doit les attraper pour que la vigne ne soit pas détruite et soit épargnée de ces loups. Notre Dieu a parlé clairement. Et on n'a pas besoin d'hommes pour venir encore nous éclaircir sur ces choses ou bien alors nous expliquer ces choses. Dans ma Bible est écrit, dans le psaume 119, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Si cette parole de Dieu par révélation nous est annoncée, alors ce n'est pas dans notre tête. Et cela n'est pas à la disposition de discuter ou bien de la révéler, parlant de l'interpréter et de faire ce qu'on veut avec elle. Mais la parole entre dans notre cœur, va dans notre cœur. Et qu'est-ce que Frère Branham a dit dans la prédication du film? Il disait, Satan a toujours utilisé la tête. Mais Dieu, lui, il a choisi le cœur. Car avec la tête, l'homme réfléchit parfois comme ça et parfois encore d'une autre manière. Mais quand la parole de Dieu est tombée dans notre... Si la parole de Dieu est tombée dans notre cœur, alors ce n'est pas une fois oui et une autre fois non. Alors c'est une fois pour toutes, oui et amen. Oui ou non? Il faut. Mais il faut que ce soit la révélation de Dieu dans ton cœur et dans mon cœur. Dieu veut rétablir l'honneur de son nom. Il veut que sa parole soit confirmée comme étant vraie et que nous, en tant qu'Église, nous formions son corps selon la parole de l'Écriture, tel qu'il a dit lui-même. Ainsi c'est écrit, oui, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé encore. Hébreux 10, verset 5, verset 6, tu m'as... Alors j'ai dit, me voici, je viens pour faire ta volonté. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Avec l'offrande de son corps sans péché et de son saint sang, il s'est racheté une église qui est son corps. Et cette église est elle-même l'appui et la colonne de la vérité. Pourquoi? Parce que nous avons été pénétrés par la vérité. C'est pour cette raison que nous sommes porteurs de cette vérité divine. Il est écrit quelque part dans la parole de Dieu. Paul l'écrit, n'est-ce pas? De Jacques, de Pierre et de Jean, qui sont les piliers de l'Église Et vous savez pour quelle raison, à quoi est-ce que sert un pilier ou bien une colonne? C'est pour... Et le pilier à porter, est porteur. Et nous, en tant qu'Église, nous formons cette colonne et cet appui de la vérité. Dieu a beaucoup de confiance qu'il a mis en nous et qu'il a placé en nous. Nous ne voulons pas le décevoir. Sinon, ça voudra dire que nous aussi. Alors, nous ne serons pas non plus déçus. Si je le dis avec un clair texte, ça veut dire seulement ceux qui déçoivent Dieu seront déçus, seront confondus. Et je vais vous donner la recette. C'est écrit dans le psaume que nous devons mettre notre confiance en Dieu. Celui qui ne met pas sa confiance dans le Seigneur, mais se met sa confiance en lui-même, il sera déçu. Et sera trompé, sera confondu. Mais celui, je crois que c'est le psaume 40, verset 5. Bienheureux l'homme qui met sa confiance dans le Seigneur. Qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Et ce verset n'est pas à mépriser et à mal entendre. Dieu cherche des gens dans ce jour et des femmes qui se sont consacrées à lui, qui trouvent leur place dans l'ordre divin, en accord ou alors selon le développement spirituel dans le royaume de Dieu. Et à tel point il est l'avancement du développement du royaume de Dieu. Vous savez, quand certaines choses sont dites avec dureté, et c'est parce qu'elles sont nécessaires. Et c'est parce que cela est nécessaire. Vous savez, beaucoup qui auraient dû accepter cette correction sont passés à côté de cela. Et ceux qui, dans leur cœur, se tenaient devant Dieu et voulaient se tenir juste devant Dieu, ils ont reçu tout dans leur cœur, même la correction. Et comme le prophète Esaïe le dit, oui, parce qu'ils ont du prix aux yeux de Dieu, en tant que filles de Sion, et ils se sont enfuis, ils ont échappé des choses de ce temps. Et ne marchent pas le cou tendu avec leurs talons et les regards effrontés. Ils ne disent pas, vous voulez seulement nous asservir. Nous ne savons ce que nous faisons. Non, nous ne savons pas ce que nous faisons. Si ce n'est que Dieu nous l'a révélé. Ce que nous avons à faire. Et alors, nous sommes prêts à le faire ensuite. C'est une grande différence entre la philosophie sur certaines choses, sur certains sujets, et la pratique divine qui manifeste comme une réalité divine ce que nous écoutons et croyons. Et bien aimé, notre Seigneur n'a rien oublié. Il veut faire de nous de nouvelles personnes, des hommes nouveaux qui marchent dans ses voies, qui lui font confiance, qui croient sa parole et qui se tiennent à sa disposition. Des personnes qui, d'un commun accord, sont rassemblées devant la face de Dieu. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, se sont assis sous le même enseignement divin et qui écoutent les mêmes paroles de Dieu et parlent le même langage. Là, ils pourront devenir un tuyau par lequel Dieu parle, un organe que Dieu peut utiliser sur cette terre pour que l'honneur du Seigneur soit rétabli. Vous savez, le monde entier blasphème Dieu. Et la plupart l'ont déjà désigné de mort ou bien exprimé que Dieu est mort. en public. Et les incroyants, on ne peut pas leur en vouloir parce que eux-mêmes, ils sont morts dans leurs péchés et leurs transgressions. Ils n'ont ils ne ressentent rien pour le Dieu vivant. Et si dans leur état spirituel, ils le déclarent comme mort, alors on ne peut pas leur en vouloir. Mais en moi et en toi, quelque chose de particulier doit être produit, devrait être produit, c'est-à-dire que nous puissions dire avec le cri de notre âme, « Oh, combien de temps encore ton nom doit être blasphémé et méprisé ? Combien de temps encore est-ce que nous devons regarder comment est-ce que tu es méprisé et blasphémé et que des hommes passent à côté de ce que tu as dit ? En nous, cela doit produire que nous puissions dire au Seigneur, « Seigneur, tu es ressuscité, tu vis, tu t'es révélé au tien autrefois. Et nous qui vivons aujourd'hui, tu nous as donné la promesse qu'un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Jésus-Christ vit. Il est ressuscité. Il parle, il agit, il sauve, il guérit, il bénit et il délivre. Que cet évangile, nouvellement, devienne une puissance de Dieu en nous tous par la grâce de Dieu. Et en nous, puisse produire ce que Dieu s'est proposé de faire, alors que Christ, sur la croix, à Golgotha, mourut. Une rédemption entière, totale, parce que l'offrande de son corps nous a été accordée. Que par sa grâce, cette rédemption soit manifestée. Et nous puissions être de nouvelles personnes dans lesquelles le Seigneur peut mettre un nouveau vin qui ne sera pas perdu parce que les outres seraient restées vieilles et ne sont pas nouvelles. Il a dit, vous êtes mes amis parce que je vous ai tout fait connaître. Et ensuite, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas maintenant le porter ou bien le supporter. Qu'est-ce que les disciples, autrefois, à quoi est-ce que ça leur aurait servi si le Seigneur, autrefois, déjà leur avait parlé de ce qui était déterminé pour ce temps d'aujourd'hui? Notre Seigneur est un Dieu sage, un grand Dieu. Il a un programme merveilleux. Au temps convenable, il fait ce qui est à faire. Il dit ce qui est à dire. Il révèle ce qui est à révéler. Et toujours, ce sont ceux qui ont été déterminés par Dieu à voir sa gloire, qui, de la bonne manière, dans ce programme divin, seront inclus. Je voudrais pour ma part, oui, être une partie de ce plan divin dans ce jour. Et l'Église du Dieu vivant est aussi une partie de ce plan dans notre temps. Exactement comme Israël, nous voulons comprendre. Comme Israël, en tant que peuple terrestre de Dieu, est devant nous en tant qu'une réalité. On peut voir que personne peut renier. Israël est là, ça existe. Mais Israël est là. Elle a le droit d'exister. Elle a reçu ce droit d'exister de Dieu. Qui veut renier l'existence de ce pays? Le Seigneur a dit, je suis celui qui a éparpillé Israël. Je suis celui qui rassemble de nouveau Israël et ramène dans son pays. Mais c'est la même chose avec l'Église du Dieu vivant. Elle a ici sur cette terre un droit d'exister. pas de manière mondaine, mais en tant que ustensile de Dieu. Nous ne sommes pas ici pour revendiquer des droits humains. Ça, les juges le font pour nous dans ce pays, peut-être dans d'autres pays aussi. Mais nous sommes ici pour revendiquer les droits que Dieu nous donne dans sa parole. Mais je vous demande de ne pas laisser un état chaotique. Il y en a qui vont faire des démonstrations de paix et derrière eux, ils brûlent des voitures et ils cassent les magasins, etc. Une telle démonstration. Est-ce que je dois vous dire que le même esprit du siècle jusqu'à dans nos groupes est venu? Il est parlé de paix. Et quand on regarde autour de soi, tout est en ruine. Partout, on a frappé autour de soi. Et chacun pense qu'il a le droit de démontrer de cette manière pour la paix. Si celui qui est notre paix n'a pas rempli notre cœur, tout cela, c'est un discours vain et inutile. Dieu a des hommes, a une église sur cette terre. Et cette église doit à la fin servir à sa gloire. L'épouse sera un produit de son espèce, eau de ses eaux, chair de sa chair, esprit de son esprit, parole de sa parole. Il produit selon son espèce. Et alors, nous sommes des fils et des filles de Dieu qui n'ont pas besoin de produire un effort pour que la parole de Dieu s'accomplisse par eux. Non, nous sommes nous-mêmes le résultat des promesses de la parole pour ce temps. Et c'est par nous que d'autres promesses s'accompliront. C'est ainsi que c'était autrefois avec Jésus-Christ. Et c'est comme si que ce sera aussi avec l'Église. Il même, lui-même, était l'accomplissement de ce que les prophètes avaient annoncé à l'avance. Il était la semence de la femme. Il était le Fils qui devait venir par une vierge. Il était le Rédempteur, le Sauveur. Toutes les promesses qui se référaient à lui se sont accomplies en lui. Toutes les promesses qui se référaient à son ministère, par lui, ont trouvé leur accomplissement. C'est comme ça aussi avec l'Église du Dieu vivant. Dans le ministère prophétique, les promesses que Dieu avait données pour ce temps, de la même manière, pour ce devoir se sont accomplis. Mais maintenant, suit le prochain pas. Maintenant, il faut que les autres promesses, par ceux-là, s'accomplissent, qui sont une partie de la parole de Dieu et de son accomplissement dans ce temps, qui sont devenus une partie. Bien, mes frères et sœurs, nous ne sommes pas en train ici de frapper un blé sans contenu. Nous avons ici écouté la parole véritable de Dieu et nous sommes venus et nous croyons et le Seigneur, lui, achèvera son œuvre par sa grâce en nous tous. Et en tant qu'un témoin vivant, un témoignage vivant de sa puissance, il nous placera là, dans ce dernier temps. Vous pourrez vous demander, mais comment est-ce que cela va se passer? Oh, je suis depuis longtemps, depuis croyant, je suis croyant depuis longtemps, et j'ai attendu cela depuis longtemps, et j'ai abandonné l'espérance. Si tu avais l'espérance, si tu as perdu l'espérance de pouvoir faire quelque chose, tu dois plutôt dire que Dieu soit remercié. Non, nous n'avons pas perdu l'espérance, l'espoir que Dieu, lui, achèvera son œuvre et qu'il fera de grandes choses pour l'honneur de son nom. Ça, ce sont les leçons que nous avons compris, que Dieu nous accorde sa grâce d'aller de l'avant en Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Levons-nous et peut-être qu'ensemble, nous chantons ce cœur. tel que je suis, sans rien de moi. Fin de la transmission.